Voici à 10h04, mesdames, messieurs, c'est notre dernière heure. Mais attention, attention. Voilà une dernière heure qui est bien remplie. D'abord et avant tout, merci d'être à l'écoute. Et puis j'espère que vous passez et que vous allez passer un beau dimanche. Température assez élevée, 29 à Montréal, même chose à Gatineau, 27 à Trois-Rivières et 25 à Sherbrooke. Ce sont les maxima prévus pour la journée. Et dans toutes les régions que j'ai mentionnées, il y a, à un moment donné, une possibilité d'averse. Et vous avez entendu Gilles Brien, qui était avec nous un peu plus tôt, météorologue, nous dire que oh, ça va être une collante et chaude cette semaine. Quatrième canicule, et nous ne sommes que dans le début de l'été. Vous rendez compte? Ouais. Quatre canicules avec celle qui vient la semaine prochaine. Yannick Bouchard est avec nous. Yannick, malheureusement, tout juste avant la pause des informations de 10 heures, on a vu Lance Stroll se retirer du Grand Prix d'Autriche.
Oui, manque de puissance au moteur, donc au 22e tour, contraint à l'abandon. Il n'est pas le seul. Kevin Magnussen également. Daniel Ricciardo et Max Verstappen aussi ont abandonné l'épreuve jusqu'à maintenant, qui en est à son 43e tour sur 71. Les Mercedes sont au premier rang. Bottas, qui était parti premier, est devant son coéquipier Hamilton. Albon est troisième. Et le coéquipier de Lance Stroll, Sergio Perez, lui, est pour le moment au quatrième rang.
C'est pas mauvais, ça.
C'est pas mauvais, non, pas du tout. Très bonne voiture depuis le début du week-end pour Sergio Perez. Et vous mentionnez qu'avant le début de la course, il y a eu une manifestation, mais on a posé un geste symbolique des pilotes de la Formule 1 qui ont posé un genou au sol pour dénoncer le racisme et tout ce mouvement Black Lives Matter également. Lewis Hamilton, le seul pilote noir du plateau en Formule 1, est un porte-parole évidemment exemplaire dans ce dossier. Il portait donc un chandail Black Lives Matter et les autres pilotes qui ont également emboîté le pas, ils étaient 14 sur 20, avaient un chandail où on pouvait lire « End Racism », donc mettre fin évidemment au racisme. Et ça découle du fait de la mort de George Floyd au début du mois de juin. Vous savez, il y a eu des manifestations nombreuses un peu partout dans le monde, mais partout dans le monde pour dénoncer le racisme. Alors, on a posé véritablement ce geste-là avant le début du Grand Prix d'Autriche.
Et on retrouvera Yannick Bouchard à la fin de l'émission dans notre dernier quart d'heure.
Oui, et juste vous dire que Jacques Villeneuve, encore une fois, y est allé. Un petit commentaire sur Lance Stroll. On lui a posé la question avant le début de l'épreuve.
Oui.
Qui va être couronné champion de la saison? Et il a répondu, Lance Stroll?
Il a un sourire en coin. Non, oui, mais c'était ironique.
C'était ironique, évidemment.
Il n'en paie pas une, comme on dit. Il n'en rate pas une, c'est ça que je voulais dire.
C'est pas la première fois que les deux sont à couteau tiré, évidemment.
Merci Yannick. Dans l'actualité, je vous résume ça de façon très sommaire. Tout le monde regarde les gens qui étaient sur la plage hier et qui sont sur la plage aujourd'hui. On a parlé au maire d'Oka. Lui, il dit que tout est sous contrôle. Ça prend du temps, par exemple, pour aller étendre son corps dans le parc national de la plage d'Oka. Il y a des gens qui ont attendu une heure. On limite par rapport au nombre de gens, de baigneurs qu'on reçoit habituellement, on limite ça à 50 % à peu près. Sauf que la photo qui paraissait dans la presse de ce matin est assez impressionnante, où on voyait quand même beaucoup de gens sur la plage. Dans certaines plages de la Floride, c'était le débordement complet. En Angleterre, c'était l'ouverture des pubs hier. Imaginez-vous, les Anglais pouvaient prendre ce qu'on appelle une pinte. Pinte de bière. Écoutez, nuit festive, débordement, partout, les gens entassés, la bière coulait à flot. Et évidemment, les autorités sanitaires disent, hey, c'est pas ça qu'on espérait.
Tu sais, quand on dit que le...
On espérait un retour discipliné, Thérèse.
Bien, quand le party prend.
Ben oui, party au poignet hier.
Party au poignet, comme
dans
on
les
dit.
Pubs. Notre prochain invité, mesdames et messieurs, nous sommes très contents qu'il nous parle d'un dimanche matin passé 10 heures. Thérèse, je crois que je vais utiliser le qualificatif le spectaculaire Serge Denoncourt.
Tu peux dire ça. Oh oui, oh,
est-ce que
tu peux
trouver que...
Hey, écoute, moi, j'ai travaillé avec. Puis
vous
même,
le savez, vous le connaissez mieux que moi.
Même personnellement, là, quand il n'est pas en spectacle ou en représentation ou à la télé ou à la radio, c'est assez spectaculaire.
Alors, spectaculaire Serge Denoncourt, bonjour.
Bonjour Paul, bonjour Thérèse.
Salut Serge.
Alors Serge, à part ça... Êtes-vous allé à la plage? Non.
Ben non. Vraiment pas. Je suis pas tellement bain de foule, moi.
Non.
Mais, hey, ouais.
Serge, écoute, comment, tu sais, je te vois, bonsoir, bonsoir. J'apprends, mm-hmm. On apprend cette semaine que c'est ta dernière chronique parce que tu pars, puis là, tu as du travail en Italie, puis tu t'en vas en Serbie, puis bon, écoute, toi, tu t'es confiné un bout, puis là, est-ce que de voyager, avant de te demander ce que tu t'en vas faire, est-ce que de partir en voyage comme ça, ça te stresse pas un petit peu?
Pars-moi pas là-dessus.
Ben oui, on veut te partir,
oui.
Justement.
Mais oui, ça me stresse un peu parce que j'ai été très, très confiné. Moi, à part bonsoir, bonsoir, là, j'ai été un citoyen modèle, limite plate. Quand ils ont annoncé qu'on déconfinait, j'ai continué un bon deux semaines sans bouger de chez moi. Fait que oui, mais tu sais, avec le masque, le zèle, les avions font pas plein, semble-t-il. Fait que, et puis rendu là-bas, je dois dire, moi, j'ai une petite maison en Italie, là. Dans mon village, il y a eu zéro cas.
Ah, oh. Ça, pour l'Italie, qui pourtant, évidemment, avait été l'épicentre de la propagation du coronavirus en Europe, parmi les premiers, là.
Oui, donc, ben écoute, il y a moins de cas, en tout cas dans mon village, qu'il y en a à Montréal. Donc, mon calcul statistique me dit que c'est pas une mauvaise idée.
Est-ce qu'il faut remplir... Parce qu'on a eu un cas qui a été exposé à la télévision hier. Un homme fiancé voulait aller retrouver sa fiancée en France. Il a fini en prison pendant 12 heures parce qu'il n'avait pas les papiers nécessaires à montrer aux autorités françaises.
Alors, c'est drôle, Paul. Normalement, moi, je partais là, comme ça, sans problème. Et là, je vais me re-renseigner parce que ça a l'air que c'est pas clair. Faut avoir un papier, faut pas avoir de papier, faut faire une quarantaine, faut pas faire de quarantaine. J'ai pas de réponse claire et définitive. Si ça prend un papier de travail, ben je peux en avoir un, y a pas de problème. Mais c'est pas clair.
Écoute, quand on parlait de voyage, j'aimerais ça savoir, tu sais, on parlait de voyage parce que tu as annoncé à Bonsoir, Bonsoir que tu partais pour l'Italie et que tu partais pour la Serbie.
Oui.
Tu t'en vas faire un casting en Italie?
Non, je m'en vais faire beaucoup d'affaires.
Oui.
Je m'en vais faire un casting pour Bernadette, la comédie musicale qu'on a fait l'an dernier en France.
Oui, OK.
Qui veulent avoir un Italien, donc c'est quand même un gros casting. On parle d'une vingtaine de personnes. Et puis, je m'en vais en France. Alors, je te donne toutes mes scoops.
Oui, c'est ça que je veux.
Je m'en vais en France pour faire la même chose du casting, pour caster la comédie musicale que j'ai écrite à partir de l'œuvre de Michel Sardou. Et puis, tiens, une petite devinette pour Paul. Et je m'en vais en France travailler sur un projet dont je peux pas vraiment parler, mais qui va être créé dans 4 ans, le 6 juin. 2024. Donc, on va fêter quoi, Paul?
Attends, là. 6 juin 2024, c'est le grand... Ben, d'abord, 6 juin, pour moi, la première chose qui vient à l'esprit, le grand débarquement.
Ben voilà.
Le grand débarquement du 6 juin 44. Donc, si on fait le calcul, ça va faire 80 ans.
Voilà.
Il a été donc, bon.
Oui, c'est bon. Je pensais que ça me tentait de pogner Paul ce matin, mais j'ai pas réussi. Donc, c'est tous des projets qui sont dans un an et demi, voire 2 ans, puis celui-là dans 4 ans. Donc, je serai pas en mise en scène, je vais être en distanciation sociale, mais il faut commencer à travailler sur ces projets-là. Les Français, les Italiens veulent aller de l'avant. Et puis, ben, ils aimeraient ça que j'aille travailler parce qu'on va sortir un album, donc pour que je fasse mon casting et tout ça. Donc, je pars. Et puis, ben, la Serbie, ben, vous savez tous pourquoi. Là,
oui.
J'ai une école là-bas, puis ça a été un moment difficile quand même pour eux.
Comment
là,
ils ont vécu ça? Parce que tu avais le sentiment, en fait, je t'ai entendu à Bonsoir, Bonsoir avec Jean-Philippe Vautier, où tu disais que tu avais un peu le sentiment qu'ils avaient été, pas abandonnés, mais tu sais, mettons qu'ils se sentaient loin là, de tout.
C'est pas moi qui avais ce sentiment, c'est
oui,
eux. Parce
c'est
que,
eux, voilà.
Évidemment, ils se sont dit, écoute, il n'y a plus personne, il n'y a plus de prof qui s'occupe de nous, etc. Moi, j'ai fait un suivi quand même en visioconférence avec eux. Il y a eu des cours qui se sont donnés en visioconférence, mais c'est tous des enfants qui ont des difficultés scolaires parce que à l'école, on les aide pas tellement. Et nous, on les aide et on a peur qu'il y a beaucoup de gens qui vont doubler. On a peur que... Et puis, nous, le centre, l'école, on appelle ça une école, puis c'en est une, mais c'est aussi un centre où ils peuvent se retrouver pour pas être dans la rue. Et là, ben, ils ont été dans la rue pendant 4-5 mois. Mais par contre, très peu, sinon pas de cas, parce que comme ils vivent dans un ghetto, ils sont confinés eux-mêmes. Moi, je les ai appelés pour dire « Vous ne sortez pas du ghetto », ce qui est le contraire de ce que je leur dis depuis 12 ans. Là. Sortez du ghetto, rencontrez les gens, etc. Mais là, ils se sont ghettoisés ensemble et il n'y a pas eu de cas. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui, c'est vrai, le bilan, quand on regarde le bilan, bien évidemment, tous les bilans, Serge, il faut prendre ça avec, avec un grain de sel, mais le bilan de la Serbie est relativement bon, là, compte tenu de ce qui a vraiment été un bilan effroyable dans certains pays d'Europe. Mais évidemment, tout ça est en rapport au nombre de tests. Alors, plus on teste, plus on trouve de cas.
Ouais. Moi, pour fréquenter beaucoup la Serbie, je ne serais pas sûr là, du bilan qu'ils nous donnent.
Oui. Ouais, OK, mettons que on pourrait ne pas avoir les bons chiffres.
Oui, mais
je te comprends.
Ce qui m'angoisse un petit peu, moi, c'est que facilement, s'il y avait eu des cas, ils auraient pu être refusés à l'hôpital.
Ah,
simplement
oui.
Parce qu'ils sont roms.
Ah oui.
Et c'est qui m'angoissait énormément.
Oh là là.
Ils n'auraient peut-être pas de soins, là.
Donc, c'est vraiment une situation très particulière pour eux.
Oui, oui, oui.
Je veux te parler théâtre tantôt, mais avant de te parler théâtre, je veux te parler de tes chroniques à Bonsoir, Bonsoir.
Oui.
À un moment donné, tu t'es fait. Je sais pas, de ce que je connais de toi, j'ai l'impression que tu t'es fait plaisir en pétant des coches de temps en temps, puis en disant ce que tu nous dis, puis ce que tu dis aux gens autour de toi. Et là, tu avais une tribune pour le dire. J'aimerais ça qu'on écoute un extrait, justement, d'un pétage de coche que tu as fait sur la ville de Montréal, et il est assez d'actualité.
Cette semaine, Valérie Plante, elle nous annonce, comprends-tu, là, vendredi, Valérie Plante, elle va annoncer le plan pour Montréal. Moi, je me peux plus. On va déconfiner, les commerces vont s'ouvrir, les bars, les restaurants, avoir un plan, tu sais, un plan. Je m'assois devant ma télé, en mou, et là, elle nous annonce qu'elle va faire des corridors piétons. Là, je fais, ça, c'est bon. Des corridors piétons, Jean-Philippe. Des corridors piétons. Puis là, j'étais là chez nous. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Ça s'est déjà fait dans un pays que j'ai
Dieu.
Fait. C'est des trottoirs, tabarnak!
Est-ce que tu t'es remis de ça? Tu te remets pas de ce qui se passe à Montréal?
Je me remets pas parce que je vais obligé de sortir de chez nous. Présentement, puis moi j'aime Montréal, je pense qu'on gagne la panne de la ville la plus laide au monde présentement. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de mobilité. C'est même pas beau, les rues piétonnières. Ça fait juste nous compliquer la vie. Hier, je devais aller dans les cantons de l'Est. Je vous dis même pas ce que ça a été sortir de l'île. Alors, rentrer sur l'île aussi, je ne vous dis même pas. C'est les travaux sur les deux ponts principaux. Je taboute. Et quand j'ai fait ma petite sortie, c'était pas prévu que je fasse une chronique là-dessus. Puis deux jours avant, j'étais sorti justement et j'étais presque en larmes. Je ne pouvais pas revenir chez moi. Je pouvais pas. J'avais aucune façon de revenir chez moi.
Incroyable. Mais Serge, hier, ça a été confirmé d'ailleurs. On le rappelait pendant toute la journée d'hier. C'est le pire week-end. Probablement de l'histoire en matière de travaux. Oui, en matière de travaux qui ceinturent Montréal ou à Montréal même, en termes de fermeture, de nombre de cônes orange, de déviation. Écoute, à midi hier, quand tu voulais t'approcher de Montréal, fallait que tu comptes une heure et demie, peut-être deux heures, à partir de Laval, qui est à quelques kilomètres seulement au nord. Il y avait une portion de l'autoroute métropolitaine de fermée, une voie à l'envers sur le pont Mercier.
Écoute, il y a un auditeur...
L'échangeur Turcot, on oubliait ça.
Il y a un auditeur qui nous écrit à la suite de ce que tu viens de dire, là, puis à la suite de ce que vous dites. Il dit, vous parlez des travaux. La 116 sera fermée complètement du 6 au 24 juillet à Longueuil pour repavage. De la sortie 4 à l'autoroute 30. Donc, le pont Victoria sera même plus une option pour sortir de Montréal. Il dit, c'est pas la santé publique qui confine Montréal. C'est Montréal qui confine
Absolument.
Montréal.
Absolument.
Ah, et ça, c'est bien.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ça confirme que je suis pas fou. Puis que je chiale pas pour rien. au moins, j'avais raison.
Alors, t'es vraiment pas tout seul. Écoute, non, non. D'abord, premièrement, faut que tu planifies maintenant le moindre déplacement.
Oui. Et... Oui, puis, moi, sincèrement, parce que la mairesse dit toujours, oui, on va faire des jolies... C'est quand... En Europe, ils le font. Ben oui, le centre-ville de Rome puis le centre-ville d'Amsterdam, c'est magnifique. Nous, pour le moment, quelle aide la ville un peu à se faire une beauté? Puis là, on fera des rues piétonnières.
Ah, ben voilà.
Mais moi, à côté de chez moi, la rue Beaubien avait été mise plus ou moins semi-piétonnière. C'est pas une jolie rue, puis les gens se promènent pas sur la rue Beaubien, fait que ça servait à quoi? Mais on s'entend-tu, les amis, que j'ai pas l'impression que c'est très, très préparé puis planifié, cette affaire-là.
Ben, on a l'impression que, tu connais l'expression, on met la charrue avant les bœufs.
Ouais,
dans exactement. Le sens que, oui, potentiellement, Montréal peut devenir une ville absolument magnifique. Mais là, c'est parce que tu peux pas faire de la décoration quand l'infrastructure est en reconstruction. On est d'accord? On n'a plus de téléphone, mais ça tombe bien, parce qu'on va faire une pause et rétablir le contact.
Oui, on va rétablir le contact, puis on va parler théâtre avec Serge Lenoir.
Ah oui, ça aussi, j'ai bien hâte de l'entendre. Ouais. De retour avec notre invité, Serge Denoncourt. Serge...
Vous me censurez.
Non, 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 c'est pas ça. C'était une fermeture de chantier.
Ah, voilà! Ouais. OK.
On a mis un cône orange sur le téléphone, mais heureusement, on t'a retrouvé, Serge. Et nous allons aborder maintenant une question. Attention, je sais que Serge va devenir émotif, mais on l'est tous. L'avenir du théâtre. Le théâtre qui a été foudroyé comme plusieurs autres scènes artistiques, Serge. Arrêté, mis en pause, confiné. Quel est le portrait général? Comment vois-tu l'avenir du théâtre?
Assez mal, dans un avenir rapproché, en tout cas, là. Assez mal. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les décisions qui sont prises présentement. C'est-à-dire d'ouvrir les théâtres absolument et demander à tout le monde de refaire des programmations alternatives. Ça veut dire que tous ceux qui avaient des contrats cette année, leurs contrats sont pas honorés. Ça, on l'oublie. Même si on ouvre les théâtres, si les gens qui devaient y travailler peuvent pas y travailler, ben, ils sont chômeurs pareil. Même si les théâtres sont ouverts, est-ce que le public sera au rendez-vous? Comment on va faire des spectacles avec les 2 mètres de distance? Ensuite, évidemment, tu montes un spectacle, ça prend plusieurs mois. S'il y a un cas de COVID, il faut tout annuler. Moi, je dis depuis le début, surveillez Broadway et suivons l'exemple de Broadway parce que c'est un modèle économique, Broadway.
Oui.
Eux, ils n'ont pas de chance à prendre. Puis, ils ont décidé d'ouvrir en janvier si tout va bien. Et moi, c'est ce que j'aurais fait, mais évidemment, les différents ministères, à moins qu'il se passe des choses que je sais pas, là, en coulisses, mais on préférait dire on ouvre les théâtres que de nous donner une espèce de PCU d'artiste jusqu'à Noël. Fait que là, on ouvre les théâtres, mais vous dire l'enfer que c'est dans chacun des théâtres pour pouvoir se remettre sur pied avec toutes les nouvelles normes. Puis de présenter des spectacles qui peuvent être interrompus 2 jours après la première. On est un peu pris en otage. Et moi, j'ai beaucoup de peine, pour vrai. Moi, tout seul, là, j'ai 6 spectacles qui ont été annulés, ce qui est à peu près 150 artistes
qui
jouaient dans mes spectacles, qui faisaient des décors, qui ont perdu leur boulot. Et ce boulot-là, ben on nous propose pas de nous le payer, là. Moi, ça va aller. Mais il y a des jeunes acteurs avec qui je travaillais. C'était leur revenu cette année, ce spectacle-là. Alors, il y a des gens qui vont faire autre chose, en fait. Et puis ben, je trouve qu'on est pris un peu en cobaye. C'est-à-dire, ouvrir vos salles, puis arranger.
Ouais. Puis à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y a eu la proposition de refaire des... C'est reprendre, en fait, des textes où t'as 2-3 comédiens à distancier. Mais là, écoute, c'est un aria, puis faut que ce soit mis sur pied quand même. Ça arrive pas avant janvier, là.
Ben, il nous oblige un peu, entre guillemets, à le faire dès cet automne, parce que maintenant, on peut plus nous invoquer la COVID pour dire on peut pas travailler. Ils nous disent non, vous pouvez. Donc, on devient responsable du fait qu'on ne veut pas travailler. Puis, comme tu disais, Thérèse, les projets changent pour être 2 et 3. Fait qu'il y avait des distributions de, je ne sais pas moi, Harlequin cet été, où on était 10, La Nuit des Rois au TNM, où ils étaient 20. ben, ces gens-là, ils perdent leur boulot, là.
Ouais,
ouais. Ils n'en trouveront pas d'autres par les temps qui courent. Il n'y aura pas de gros spectacles qui vont se faire avec beaucoup d'acteurs sur scène.
Toi, est-ce qu'au moment où on se parle, est-ce que tu es au courant si tes mises en scène seront reportées ou si vraiment...
Non, je ne sais pas encore. Il y a une mise en scène qui va être reportée parce que j'ai déjà pris les dates. Je les ai prises en 2 jours après qu'ils aient fermé. C'est Mademoiselle Julie au Rideau Vert, mais on l'a reporté. Moi, je ne sais pas, j'ai senti que ça ne marchait pas, cette affaire-là là, de COVID. Puis là, on parlait de fin août. J'ai fait non. Quand est-ce que vous avez une date plus loin? Puis ils m'ont dit dans 2 ans. Puis j'ai fait dans 2 ans.
Si loin que ça?
Oui.
Attends, moi, j'avais des billets pour ça, puis je pensais que c'était l'année prochaine.
Vraiment, tu n'as pas pris de chance. Tu es encore mieux que les Jeux olympiques qui ont été reportés d'un an.
Exactement. Oui. Mais moi aussi, c'est que, premièrement, il n'y avait pas la plage horaire qu'on aurait souhaité, dans le sens qu'il y a déjà des spectacles programmés. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un effet d'entonnoir qui se fait. Là, les spectacles qui se font pas, ben on peut pas nécessairement les faire parce qu'il y a déjà des trucs programmés après janvier, puis il y a déjà des trucs programmés l'année prochaine. Moi, ce que je trouve dommage présentement, c'est que j'ai l'impression que dans les différents ministères et les différents bureaux, ils comprennent pas du tout la réalité du théâtre, le temps que ça prend, le temps à programmer ça, à préparer ça. Quand la ministre, on pense pouvoir ouvrir les théâtres pendant l'été, c'est oui, mais pour présenter quel spectacle?
Mais Serge, tu m'ouvres la porte sur un genre extrêmement populaire. Je dirais qu'au Québec, c'est une particularité qu'on a chez nous, le plaisir du théâtre d'été. Le théâtre d'été. Là, on est dans des journées fantastiques, chaudes, qui s'étirent. Thérèse et moi, on y va une fois par année, Thérèse, notamment au Vieux-Terrebonne. Je pense à une pièce comme Brou. Les trois gars relancent ça de façon formidable. Ouais. Et là, le théâtre d'été, pouf, disparaît.
Oui.
Ouais.
Et ça, le théâtre d'été, c'est des privés. Mais alors, il y en a peut-être qui s'en remettront pas.
Ils ne s'en remettront pas de ça. Moi, j'ai peur de la fermeture de certains théâtres.
J'ai peur de
vous
aussi.
Oui. Mais il va y en avoir. Il va y en avoir des fermetures, je peux vous le jurer. Parce que souvent, en plus, pour les théâtres d'été, les dépenses étaient déjà commencées, là.
Oui, puis non seulement ça, mais tu sais, les théâtres d'été, t'as pas juste la proposition théâtre, là. C'est une entreprise qui te propose une expérience. Donc, avec la bouffe, avec la soirée, avec, tu sais, avec le 5 à 7. Puis après ça, le souper, puis après ça, bon, la pièce. Et là, ces gens-là avaient fait des investissements. Moi, je connais quelques personnes qui, tu sais, sont pris avec ça, là.
C'est un autre aspect,
Serge. Les théâtres d'été qui vont bien, là, ils roulent pas sur l'or, là. C'est pas...
Non.
Non, mais Serge... Ça procure de l'emploi aux techniciens de scène qui en ont grandement besoin. Ça procure de l'emploi aux comédiens, aux comédiennes. Et là, la question, Serge, il faut s'interroger sur l'avenir de nos salles également.
Oui. Mais moi, je pense qu'il faut juste réussir. Ça m'étonne, moi, de dire ça, puis je vais l'être. Là. Il faut être patient. Il faut tenir le coup. Quand ça va repartir en fou, parce que les gens vont avoir beaucoup, beaucoup envie de venir nous voir au théâtre, mais il faut pas le faire n'importe comment, au risque de la santé publique, au risque de la santé mentale des gens qui ont ce travail-là à faire. Là, moi, les théâtres m'appellent, les théâtres m'appellent et ils essaient, là, tu sais. Alors, disons que tu fais un spectateur sur deux dans la salle, qu'est-ce que tu fais avec ton hall d'entrée au mois d'octobre ou au mois de novembre quand il pleut dehors, puis t'as une queue de gens qui attendent dehors? Mais qu'est-ce que tu fais avec les toilettes? C'est niaiseux, là. Mais
non, c'est vraiment des questionnements.
On est obligé de t'en parler. Fait que là, ils nous disent, faites des spectacles sans entrant. Hey, on peut-tu faire les spectacles qu'on veut?
Ben, c'est ça le problème. C'est que Thérèse disait, est-ce qu'on va être contraint? Le public n'est pas dupe, Serge.
Non.
On n'est pas des idiots. C'est-à-dire les gens qui aiment le théâtre, que ce soit le théâtre d'été ou qui vont voir les grandes productions de l'automne et de l'hiver. On ne veut pas se faire imposer des règles qui disent on met au programme cette pièce-là parce que ça rentre dans le système. Mais non.
Puis le pire, c'est que le théâtre au Québec, là, on est un peuple, et ça m'étonne toujours de dire ça, puis je suis toujours ravi. C'est un peuple qui va au théâtre. On y va plus que les Parisiens per capita. Nos théâtres sont souvent pleins. On a un public éduqué. C'est une belle industrie. série que moi j'aime beaucoup, puis j'en fais des spectacles, on le sait, puis il y a du monde, puis il y a un dialogue avec les acteurs, puis ça allait plutôt bien, même si ça va toujours mal. Là,
théâtre, oui, quand même. Bombes, oui. Là.
Et là, tout à coup, paf, ça, moi, je vous le dis, pour se remettre sur pied, vraiment, ça va prendre des années, là.
Ah, pour, c'est dur d'entendre mais je comprends ce que tu dis.
Pour le manque à gagner, tu sais, en termes de sous, on peut plus faire de soirées bénéfices.
Puis on a tendance, c'est ça. Tu sais, les soirées où tu peux ramasser justement des sous pour ton théâtre,
c'est
des
ça.
Sous.
On peut pas en faire.
On pense souvent aux comédiens, tu sais, on parle souvent des comédiens qui ont pas de travail. Moi, je pense, tu le sais, parce qu'on a travaillé ensemble, mais on travaille dans, tu sais, à un moment donné, dans des coulisses, là. Quand tu rentres dans les coulisses d'une émission, quand tu rentres dans les coulisses d'un théâtre, quand tu rentres, les gens qui travaillent là, c'est les techniciens, les gens au décor, les gens au costume, les gens, tout ce monde-là qui sont là en attente que ça reparte et en attente qu'il se passe de quoi. Moi, je pense à ça.
Il y a toutes sortes de choses que, puis c'est pas de sa faute, le docteur Arruda, là, c'est pas un acteur, tu sais. Mais quand il nous donne les règles, déjà, c'est difficile. Mais je sais pas s'il est déjà allé, lui, dans les loges du Katsu ou les loges du Rideau Vert. Ben, il y en a pas de distanciation possible. Il y en a pas. On est empilés les uns sur les autres. On fait nos chics puis nos cutes sur la scène, là.
Ouais.
Mais dans les coulisses, c'est tout petit.
Écoute, les
Puis on change de costume avec une habilleuse qui est, tu sais, ça se peut pas. Ça peut.
Mais Serge, tu l'as dit. Quand ça va repartir, ça va repartir sur les chapeaux de roue. Et évidemment, j'imagine, Serge, que tu es d'accord avec tout le monde, avec nous. Il va falloir que dans les prochains mois, ça mène soit une médication ou un vaccin qui va changer le cours de l'histoire.
Il va nous aider, en tout cas.
Mais c'est exactement ce que Broadway dit. Puis comme je le dis, tu sais, nous, on a un spectacle à 300 000 $. Eux autres, ils ont des spectacles à 31 millions. Alors, ils n'en prennent pas de chance. Puis je pense que la décision qu'ils ont prise, ben c'est la meilleure. Et eux, ils n'ont même pas la chance parce que tout est privé. Ici, là, il n'y a pas des milliards de contrats là, qui avaient été signés. Si le gouvernement acceptait d'honorer ces contrats-là, ça serait pas une somme faramineuse. Et ceux qui avaient du boulot, ben au moins, auraient ces sous-là pour passer à travers une année qui va être... Parce qu'en plus, évidemment, il y a ceux qui avaient des contrats, puis souvent, ben là-dessus, tu trouves un contrat de publicité par la banque, puis un contrat de voix, puis tu finis par survivre toute ton année. Là, c'est assez désespérant. Puis moi, je vous le dis, les acteurs, les A, là, ils vont s'en sortir. C'est les jeunes acteurs. Là, les jeunes acteurs qui sont sortis des écoles ce printemps, on les connaît pas. Quand est-ce qu'on va les connaître? Ils ont fait 4 ans d'école, 3 ans d'école, et là, ils ont zéro possibilité de travail devant eux.
Mettons qu'ils vont se rappeler de cette année-là, c'est très certainement. Mais avant de terminer, j'ai une dernière question. Ouais. Rapidement, tu vas me répondre, Serge. Je sais que tu as parlé tu sais, tu as été chroniqueur, tu as fait beaucoup de choses, mais un spectacle, un genre de stand-up spectacle à toi tout seul.
Non,
mais on jase,
Non. J'haïs ça être tout seul en scène, j'haïs ça être tout seul quand. J'aime ça les gangs, j'aime ça les shows, le théâtre, les gangs. Non, puis tu sais, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux là-dessus.
Oui.
Mais je suis pas un humoriste. Tu me connais, Thérèse, là.
Oui, non.
Tu l'as dit au début. J'étais à la télé exactement comme je suis dans la vie, toujours au deuxième degré, toujours un peu enragé. Fait que si vous voulez me voir en spectacle, vous passez sur la rue Saint-Laurent devant chez moi. je suis toujours bien enragé sur mon balcon.
Serge, bon été, bon voyage.
Bon été à vous.
Et bon voyage, prends soin de toi.
Et n'oublie pas de remplir tous tes papiers avant de partir.
Oui, puis Paul, ben fais-nous honneur en tant que participant à l'équipe des chroniqueurs de Bonsoir, Bonsoir.
Certainement.
J'espère qu'on va te revoir.
Ben oui, j'y vais demain.
Bon, parfait. Je te laisse entre les mains. Essaie de.
Je vais être
meilleur que moi.
M'essayer de me fâcher, moi aussi. M'essayer de faire une colère.
Tu ne te fâches pas, toi.
À une colère à la spectaculaire. au spectaculaire de nos cours.
Ah oui, ça serait effrayant. T'es capable.
Bon été, Serge.
Merci, bon été.
Bon
Serge.
Été. Merci d'avoir appelé. Bye.
Là, on va faire une pause. Mise à jour ensuite dans le mystérieux dossier de l'impact de Montréal. Thérèse fouille. Depuis hier, elle tente d'identifier qui
la mouette,
est la...
La mouette. La taupe. Excusez-moi. La mouette. Excusez-moi.
Vous savez, Mme Parisien, pourquoi on travaille ensemble? Parce que j'adore
je sais pas.
Quand vous faites un lapsus.
La taupe, c'est la taupe que j'ai dit,
Qui a aucun rapport. Elle voulait dire la taupe, elle dit la mouette. Mais je vous adore pour ça.